À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Rada Atemganzer, gynécologue obstétricienne, responsable de la Maison des Femmes de Saint-Denis.
Premier épisode, le souvenir du cèdre et la douceur du miel. Bonsoir Rada Atem.
Bonsoir Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, c'est-à-dire que vous êtes une femme qui accouche d'autres femmes. Mais dans votre cas, le verbe accoucher prend un sens à la fois littéral et figuré, puisque vous aidez les femmes à donner naissance à leur bébé, mais vous les aidez aussi à surmonter les épreuves de leur vie et notamment les violences qu'elles subissent. En ce sens, un peu comme Socrate faisait accoucher les hommes de leurs connaissances et les incitait à exprimer ce qu'ils ignoraient d'eux-mêmes, on pourrait dire que vous aidez les femmes à se libérer des mots, M-O-T-S, et des mots, M-A-U-X, qui les entravent. Et vous le faites au sein d'un lieu unique, un lieu exceptionnel, qui est la Maison des Femmes, comme vous l'avez dit, une institution que vous avez créée en 2016 à Saint-Denis, où vous travaillez. Et à la Maison des Femmes, on accueille des victimes de violences, on les écoute, on les accompagne, et on les répare, ou on tente de les réparer en tout cas. J'ai hésité, Rada Atemganzer, quand j'ai commencé à écrire cette introduction, à dire que vous êtes une femme qui accouche d'autres femmes ou qui fait accoucher d'autres femmes. J'ai trouvé que fait accoucher, c'était pas très joli. Mais j'aimerais bien savoir comment vous vous dites. Qu'est-ce qu'on dit en français quand on est accoucheur?
On dit qu'on est accoucheur. Ça simplifie parce qu'autrement, les formules sont assez moches. Moi, je dis que j'aide les femmes à mettre leurs enfants au monde. Mais on est bien d'accord. Ce sont les femmes qui mettent leurs enfants au monde.
Est-ce que c'est parce que vous vous appelez Rada, et que Rada veut dire oasis, je crois, que vous avez choisi de faire ça, c'est-à-dire de dédier votre vie aux femmes, et comme si vous leur offriez un oasis?
C'est très joli, mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça. J'ai d'abord choisi de dédier ma vie, c'est très pompeux, à la médecine. Et c'est ensuite que j'ai rencontré la médecine des femmes. Et que je suis surtout tombée un peu amoureuse de cette spécialité extraordinaire qui est l'obstétrique, qui est cette mise au monde, la maïeutique, qui est la spécialité de Socrate. Et petit à petit, les femmes sont devenues le sujet. Mais au début, c'était la naissance, mon sujet.
Vous avez demandé, cela dit, à vos parents, pourquoi ils vous avaient choisi ce prénom pour vous, Rada?
Oui, mon prénom, c'est toute une histoire, parce que mes parents étaient francophones, et c'est pas évident en français, Rada, puisque quand on transcrit de l'arabe, on met GH, et en fait, c'est ma tante paternelle qui a choisi mon prénom, elle avait une très belle amie qui s'appelait comme ça, et il y a eu tout un conciliabule de « est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on va pas trop écorcher son prénom ? Comment ça va se passer ?» Et puis finalement, on a choisi ce prénom, alors que mon frère s'appelle Joseph, par exemple, mon père Georges, ma mère Suzette. Et en même temps, c'était une façon de marquer mes racines, donc ça m'allait bien.
Des racines qui sont libanaises, puisque vous êtes née au Liban, Rada Atem, en 1959, dans une famille dont le berceau est un petit village au toit de tuiles rouges, qui est situé à 26 km de Beyrouth. Un village qui s'appelle Hamana, c'est comme ça qu'on dit ?
Vous prononcez très bien.
Hamana, qui est réputé pour ses cerisiers et ses pommiers. Mais vous êtes née à Beyrouth.
Oui, mais au Liban, quel que soit l'endroit de votre naissance, vous êtes matriculée dans le village d'origine de vos parents, dans le berceau de la famille. Donc sur ma carte d'identité, c'est Hamana. Et en vrai, je suis née à Beyrouth.
Famille libanaise, chrétienne, francophone donc, amoureuse de la France. Qu'est-ce que ça supposait d'être chrétien au Liban au début des années 60, dans ce coin du Liban en tout cas?
Il y a une hiérarchie au Liban qui est liée à la religion, et malheureusement il y a aussi une religion omniprésente et qui empoisonne beaucoup les relations humaines. L'origine du Liban, c'est quand même le mont Liban, qui était habité par les Maronites, qui sont donc des chrétiens. Et nous étions autonomes, nous avions un émir. Et ensuite, le Liban s'est élargi avec l'accès à la côte, etc. Mais les Maronites sont restés un petit peu les gens importants du Liban. Et ça pourrit beaucoup les relations, parce qu'aujourd'hui, nous avons une constitution qui est complètement absurde, qui veut que le président de la République soit maronite, et que le premier ministre soit sunnite, et ensuite celui d'après est chiite. Et en fait, c'est extrêmement enfermant, parce qu'on ne s'intéresse plus ni à l'éthique, ni à la compétence des gens. Il faut des gens d'une certaine religion. Et ça, c'est absolument dramatique. Et ça donne l'impression que les maronites sont extrêmement prétentieux, puisque ils auraient le pouvoir suprême qui est d'avoir un président de la République. Et c'est un petit peu ce contraste qu'on vit au Liban, avec toutes ces fameuses religions supposées vivre ensemble dans la paix et l'amour.
Vous avez grandi dans une famille croyante, on pratiquait la religion, vous avez reçu une éducation religieuse ?
J'ai eu une éducation religieuse, j'ai tous mes diplômes, baptême, première communion, confirmation. J'ai même été à un moment professeur de catéchisme pour les tout-petits, parce que ça, c'était surtout les tout-petits qui m'intéressaient à vrai dire, et j'aimais bien
déjà
cette activité.
Votre mère était femme au foyer ? Votre père était ingénieur. Je crois que c'est lui qui a construit le réseau téléphonique du Liban, c'est vrai ça ?
Il a participé. Il a été un moment directeur des PTT. J'ai deux souvenirs importants. Mon père a pris le bateau qui allait à Marseille, de Beyrouth à Marseille, et qui déposait le câble sous-marin qui devait permettre justement de connecter le Liban à l'Europe. Et ça, je trouve que c'est quand même symboliquement assez joli. Et puis, il m'a raconté aussi qu'il avait pris un avion juste après la guerre pour venir en France faire justement ses études à Télécom, Paris, et qu'il y avait Charles de Gaulle dans cet avion. C'est un souvenir un peu... Il m'a raconté ça à la fin de sa vie. Ça avait l'air assez magique. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai.
Et vous, Rada Hatem, de quoi vous souvenez-vous quand vous étiez petite fille ? Vous êtes, pour compléter dans la famille, parce que vous n'étiez pas toute seule, vous êtes la troisième de la famille... Seule fille. Donc, vous avez trois frères.
Oui. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance qui se découpent. Il y a des étapes. Par exemple, l'arrivée de mon petit frère, j'avais 6 ans. C'est une étape importante. Je voulais une petite sœur, désespérément. Et pas de chance, un troisième frère. Donc ça, c'était une très, très grande frustration. Je lui en veux encore. J'ai d'autres souvenirs très marquants, notamment la guerre des 6 jours, par exemple. Je devais avoir, pareil, un peu plus.
8 ans.
Ouais, 7-8 ans. Et ça, c'est quelque chose, quand vous êtes... j'étais encore une enfant. Cette angoisse sourde dans toute la ville, le fait de déteindre les lumières, de mettre du papier bleu sur toutes les vitres, et cette impression qu'il fallait que rien ne se voie, c'est extrêmement impressionnant pour un enfant. Et je pense que c'est mon premier souvenir, mon premier contact avec la guerre. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, Dieu merci, il n'y a pas eu trop de dégâts au Liban à ce moment-là. Mais les autres temps de la guerre sont venus à chaque fois réactiver, comme toujours, ces souvenirs anciens, et à chaque fois les aggraver un petit peu.
Et dans la famille, le fait d'être la seule fille au milieu de cette fratrie, avec votre mère, mais de la fratrie, disons, deux grands frères et un petit frère, ça veut dire que les grands frères avaient quelle relation avec vous ? Ils vous protégeaient ? Ils vous ont appris la bagarre ? Un peu tout à la fois.
J'avais deux frères qui étaient nés à un peu plus d'un an d'intervalle et qui étaient en très très grande compétition. Et donc, il y avait énormément de violence entre eux. Et je m'étais auto-attribué, mais je pense que c'est parce que génétiquement, nous sommes formatés, un rôle de médiatrice, un rôle de d'apaisement, un rôle de « je prends les coups ». Et j'étais tellement bête. Je peux vous dire ça aujourd'hui en rigolant, mais parfois mon père décrétait des punitions, tu vas aller au coin, et je disais non mais je vais aller au coin à sa place. Vous voyez combien j'étais formatée par les filles arrondissent les angles, les filles sont là pour s'occuper des autres. J'ai beaucoup été conditionnée à ça.
Est-ce que
probablement parce que c'était deux grands frères qui prenaient beaucoup de place et que j'avais vite compris qu'il fallait que moi ça file doux et que tout roule.
Est-ce que vous preniez modèle sur votre mère de ce point de vue-là ou pas du tout ?
Non, d'abord je crois que je supportais pas cette violence et ces cris et ces coups et j'avais hâte que ça s'apaise. Je crois que c'est quelque chose qui m'a... Ouais.
Vous diriez que vous avez reçu une éducation différente de celle de vos frères par exemple ? Rétrospectivement, quand vous y repensez ?
J'ai reçu des contraintes différentes. Et c'est un bagage qu'on donne aux filles dans ces régions-là, qui tourne toujours autour de l'intégrité corporelle, de ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce que les voisins vont penser, et bien sûr de les garçons, gros problème. Et pourtant, j'étais assez libre de mes mouvements. Je faisais beaucoup de sport. J'avais énormément d'activités extrascolaires, de la danse, du piano, du basket, tout ça. Mais il y avait un truc implicite. Il y avait une frontière qu'on n'était pas supposé dépasser. Et pour que les filles ne dépassent pas cette frontière, les parents et en général les mères sont les gardiennes de la vertu. Et donc, elles s'approprient un rôle de super flic qui peut être assez pesant. Et j'écoutais ce matin à voix nue avec Gisèle Halimi et j'ai retrouvé beaucoup de similitudes entre une enfance tunisienne et puis moi, une enfance plus tardive, mais au Liban, dans un milieu plus aisé, etc. Mais avec toujours ce truc autour du corps des filles, ça ne passe pas.
Un carcan ?
Complètement. Complètement un carcan et peut-être une angoisse. Alors, on peut comprendre les mères, surtout à cette époque-là. Un garçon qui couche avec la moitié du voisinage et qui se reproduit, personne ne le sait. De toute façon, il suffit qu'il dise qu'il n'a jamais vu cette fille et qu'elle ment, ça pose aucun problème. Si votre fille est enceinte, c'est quand même un coup pour la famille et ça leur paraît tellement insurmontable que l'obsession, c'est ça, c'est la pureté, la virginité, la tranquillité.
Est-ce que vous diriez que c'est de là que date votre conscience féministe, je ne sais pas, on en parlera plus tard peut-être, mais en tous les cas, de cette volonté d'égalité entre les hommes et les femmes, ça peut dater de là.
Complètement, complètement, parce que même si j'étais relativement libre et que je pouvais, par rapport à d'autres jeunes filles de mon âge, faire beaucoup de choses, je sentais toujours qu'il y avait des choses que mes frères feraient sans que ça pose problème, sans demander la permission, et que pour moi, c'était une négociation permanente. Et ça, c'était insupportable. Je veux dire, s'ils avaient le droit, ben je devais avoir le même. Il n'y avait pas de raison.
Vos parents vous ont mis, Rada Hatem, à la mission laïque française, donc du lycée franco-libanais de Beyrouth. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Est-ce que vous avez aimé être là-bas ?
Ouais, moi j'étais une bonne élève, c'est horrible. J'avais des tresses, des lunettes, je travaillais bien, j'avais de bonnes notes.
Pourquoi dire que c'est horrible, c'est bien.
Mais non, c'était comment dire, presque ridicule. Moi j'aimais l'école, j'ai jamais souffert de devoir apprendre, de devoir avoir des devoirs.
Vous aviez des facilités, comme on dit.
Peut-être, mais j'avais aussi, je trouvais ça génial qu'on enseigne des trucs. Je trouvais que j'avais beaucoup de chance. Et en plus, le fait d'être au lycée français, ça ouvrait quand même énormément sur le monde. Parce que j'ai eu des profs français, jeunes. C'était ceux qui ne voulaient pas faire leur service à l'époque. On les appelait les détachés militaires. J'ai mis du temps à comprendre ce que c'était qu'un détaché militaire. Et donc, ces gars-là, ils étaient super contents. Ils étaient dans un pays exotique, avec une jeunesse assez dorée. Et on partageait beaucoup de choses. C'était grisant, c'était très libre. Et je pouvais comparer par rapport à des amis qui étaient élevés dans des collèges et des lycées religieux. Parce qu'au Liban, c'est où ça ? Ou des trucs religieux, chrétiens, musulmans, machin. Eh bien, on n'avait pas du tout la même vision du monde, c'est clair.
En même temps, vos parents, qui étaient francophones, ne souhaitaient pas vous parler français.
C'est pas ça. C'est qu'ils avaient expérimenté avec mes frères qui étaient dans le même lycée que très rapidement, le français prenait le pas sur l'arabe. Et c'était une époque, le Liban est indépendant depuis pas très longtemps, et c'était une époque où on avait quand même un sentiment d'appartenance qu'il fallait encourager. C'est pour ça aussi que j'ai un nom arabe, et que mon petit frère aussi, c'est moi qui ai choisi son prénom, et j'ai choisi un prénom arabe, Karim, parce que quelque part c'était important de marquer cette appartenance. Donc ils se sont dit, si nos enfants se mettent à parler français très vite et qu'ils perdent l'arabe, c'est dommage. Donc on va parler arabe pendant 3 ans à notre fille jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Peut-être qu'elle en gardera quelque chose, mais ils ont un peu déchanté parce qu'au bout de 15 jours, j'étais passée au français définitivement.
Est-ce qu'on parlait politique à la maison ?
Oui, bien sûr. C'est impossible de ne pas parler politique au Liban. D'abord parce qu'il y avait plein de partis, et puis Il y a quand même aussi quelque chose qui a un petit peu rythmé mon enfance et surtout mon adolescence. C'est la question palestinienne. Elle était omniprésente, elle était dans toutes les conversations, tout le monde avait un avis. Et c'était compliqué aussi parce que on était dans cette dualité. Si tu es avec cela, tu peux pas être avec les autres. Et moi, j'étais une très très grande lectrice boulimique. Et par exemple, j'avais découvert énormément de bouquins sur la Shoah, sur des mémoires de femmes qui avaient vécu dans les camps, etc. Et j'étais absolument scandalisée par la Shoah. Et en même temps, c'était impossible d'en parler parce que on était anti-palestinien si on évoquait le drame juif. Et ça a été assez compliqué. Parce que j'étais évidemment profondément pro-palestinienne, ça faisait pas l'ombre d'un doute. Mais en même temps, j'estimais qu'on avait le droit de parler de ce qu'avaient pu subir les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et que c'était pas l'un ou l'autre. Et c'était d'autant plus choquant d'ailleurs que c'était l'un et l'autre.
Rada Hatem, survient la guerre en 1975. Vous avez 16 ans, 15-16 ans. Hein, donc c'est une jeune adolescente qui découvre ce qu'est la guerre réellement, quotidiennement. Quels sont vos souvenirs ?
Tellement de souvenirs. La rage d'abord. La rage de voir son adolescence confisquée. Alors c'est très égoïste, hein ? Parce qu'à côté de moi, des gens mouraient, j'ai des copains de classe qui sont morts, d'une balle perdue, d'un obus. Mais cette idée que c'est pas juste. J'arrive à un âge où mes frères, qui avaient 2 et 4 ans de plus que moi, avaient eu une période d'adolescence extrêmement gay, avec sorties, etc. Le Liban était joyeux à cette époque. Et là, brutalement, c'était on ne peut pas sortir, le monde est hostile, tout est dangereux. Quand on a 16 ans, c'est dur. Je pense que quand on est plus petit, on le vit mieux parce qu'on est dans le cocon familial et de toute façon on est dans le cocon familial. Mais là, c'était le moment où justement je voulais sortir et patatras, c'était juste impossible.
Vous habitiez dans l'escalier pour éviter les obus ?
Oui, j'ai fait beaucoup de séjours dans l'escalier avec mes bouquins parce que l'immeuble était donc rond un peu et l'escalier était la partie la plus protégée. Il aurait fallu que l'obus traverse tous les appartements avant d'y arriver, donc on avait estimé que c'était là l'endroit. Et j'ai des souvenirs à distance, c'est presque émouvant et chaleureux de tous les habitants de l'immeuble se retrouvant au premier étage, c'est plus sûr. Et c'est là qu'était mon appartement. Et chacun apportait qui un thé, qui une bouteille de whisky, qui un jeu de cartes, pour aussi se donner un peu de courage et partager ces moments-là qui étaient absolument pas drôles. Et moi, en général, j'avais un petit bouquin, j'étais au fond et ça me permettait aussi d'oublier.
Vous vous souvenez de ce que vous avez lu dans les escaliers de votre appartement à Beyrouth ?
Ouais, je crois que c'était ma grande époque, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir et compagnie.
Et ça fait quoi de les lire dans ces conditions ? Et si vous les avez relus après dans d'autres conditions, par exemple ?
Bah, ça fait vraiment écran, en fait. Parce que justement, ça me permettait d'être tellement prise par ma lecture que finalement, j'oubliais cette situation absolument absurde de tous ces gens assis dans un escalier.
Vous pouviez faire abstraction.
Complètement.
Vous évadiez.
Total. Ouais, ça c'était absolument merveilleux.
Et puis vous alliez à Amana, à Amana, le petit village?
Alors, la vie était complètement. Ça paraît fou aujourd'hui, mais par exemple, on devait attendre d'avoir du courant, ce qui n'était pas fréquent, et puis de pouvoir se connecter à la radio à certaines heures de la journée, et on avait la litanie des morts. Ça, c'était un moment très important, parce qu'il fallait écouter dans cette litanie est-ce qu'on connaissait un mort. Aujourd'hui, évidemment, en 32 secondes, on a l'info partout, et donc ça, c'était des moments importants, parce que quand il y avait beaucoup de morts, c'est qu'il y avait eu beaucoup de combats et beaucoup d'obus, on sortait pas trop. Quand il y avait des moments d'accalmie, on pouvait effectivement décider d'aller passer quelques jours à la montagne. Tous les Libanais ont une maison à la montagne, c'est pas possible autrement. Et un hiver où vraiment ça se passait très mal à Beyrouth, mes parents ont décidé qu'on irait passer l'hiver à la montagne. Donc c'était l'année de ma première. Et du coup j'ai passé une année dans des conditions un peu aride, vu que la maison n'était pas très bien chauffée. Il y avait un poêle à bois dans le salon et rien dans les chambres. Donc on partait avec notre bouillotte. Il y avait de la neige, c'est un village en montagne. Et je suis allée à l'école communale. Donc je marchais une demi-heure dans la neige matin et soir. C'est une expérience assez unique. Je me suis fait des copains que j'aurais pas eu autrement, qui étaient les enfants du village. Et bon, ça m'a permis quand même de valider ma première, même si elle avait duré que quelques mois. Et j'ai eu mon père comme prof de physique, parce que mon père avait décidé de participer à sa façon. Il donnait des cours de physique dans cette école.
Et alors, ça se passe bien quand on a un père qui donne ses cours quand on est en première?
Oui.
Dans ces conditions, on accepte un certain nombre de choses que peut-être habituellement on n'accepterait pas.
Non, puis mon père était plutôt bon pédagogue et assez passionné par la physique, donc non, c'était marrant.
Je disais que Hamana était un village réputé pour ses cerisiers et ses pommiers. C'est ce qu'on lit quand on va chercher des choses sur le village en question. Mais vous aviez un figuier.
Oui, j'avais un figuier incroyable. Mais en fait, il est surtout réputé pour ses cerisiers. Et il y a un festival au mois de juin chaque année, avec des chars et puis des sculptures en cerises. C'est vraiment extrêmement important, la cerise. Et dans la maison, devant la maison, il y avait un énorme figuier. La maison était construite sur un rocher. Donc en bas, il y avait le rocher. Le figuier s'enracinait dans le rocher, je ne sais pas comment. Il mesurait plusieurs mètres. Et tous les matins, ma grand-mère, tant qu'elle était valide, montait sur une échelle pour aller cueillir les figues mûres du jour. Et elle m'apportait ma ration de figues. Et pour moi, l'odeur de la figue est... Je ne connais pas de meilleure odeur. Quand j'achète une bougie, il faut qu'elle soit à la figue. Si j'ai un parfum à la figue, c'est l'extase. Et malheureusement, la maison a reçu, au moment de l'invasion syrienne, plusieurs obus. Un obus sur ce joli toit de tuiles rouges. Ça, c'était assez triste. Et un obus en plein dans le figuier. Ça, je m'en suis pas remise. Et le figuier est reparti, mais il est extrêmement malingre, alors que c'était un arbre superbe.
Est-ce que vous diriez que la guerre que vous avez vécue, traversée quand vous étiez adolescente, avant de partir, Rada Hatem, reste aujourd'hui, quand vous y pensez, comme un traumatisme? Là, par exemple, c'est un exercice douloureux que je vous demande. Ou est-ce que du temps a passé et que vous avez pu tourner la page?
On ne tourne jamais cette page. Mais le temps a passé et... J'ai toujours considéré que j'avais beaucoup de chance, parce qu'à plusieurs moments, l'obus est tombé devant, derrière, sur le voisin du dessus, à côté. Et ça vous donne un sentiment, non pas d'immortalité, bien au contraire, mais je pense que les enfants qui vivent dans des pays en guerre comme ça comprennent très tôt l'impermanence de la vie. Et peut-être ce que ça nous apporte, c'est, tu vois, ça peut s'arrêter n'importe quand. Tu es payé pour le savoir maintenant. Et à toi de décider ce que tu vas faire de ce temps qui t'est finalement offert. Parce que tu aurais pu y rester comme ton voisin, comme ton cousin. Comme... Et donc non, quand j'y repense, j'ai plutôt une très grande douleur pour mon pays qui a été tellement en vrac. Et qui, les Libanais sont des gens d'une résilience incroyable et d'un optimisme fou, parce que chaque fois que les vitres s'écroulent, chaque fois que les immeubles sont abîmés, on reconstruit, on réespère, on remet le couvert, sans jamais désespérer. Moi, je pourrais plus. Et ils ont continué. Là, il y a eu le 4 août, il y a 2 ans, et rebelote. Ils y croient, ils essayent.
Et avec une explosion à Beyrouth.
Oui, l'explosion du port qui a fait, mais je crois, la plus grande explosion connue, avec des dégâts immenses. Et pourtant, on se dit que cette foi en la vie persiste, quoi qu'il arrive. C'est absolument dingue.
En 1977, Rada Hatem, vous quittez le Liban pour la France, avec déjà l'idée de vouloir devenir médecin?
Oui. De toute façon, on ne pouvait pas avoir de visa pour la France, tous les migrants le savent, si on n'avait pas un projet postulé, je ne sais pas quoi. Donc je m'étais inscrite, j'étais en médecine, ce qui m'avait permis d'avoir le petit sésame pour partir. Et oui, je me souviens très bien de... C'est la première fois que je prenais l'avion. J'avais voyagé, mais plutôt en voiture dans les pays environnants. Et là, je prends l'avion pour la première fois et je me souviens encore de l'atterrissage à Orly. Et c'était extrêmement grisant de se dire oh, ça y est, je suis seule, je suis très loin et je suis dans un pays où je suis en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement puissant. Ça faisait longtemps, ça faisait 4 ans qu'on vivait cette drôle de guerre où on pensait tous que bah, demain ça va s'arrêter, dans un mois ça sera fini, tu vas retourner à l'école, etc. Puis ça finissait jamais. Et je me souviens encore de discussions avec les anciens. On se disait non mais le général de Gaulle peut pas abandonner le Liban. Il a toujours dit que c'était un pays qui comptait beaucoup pour lui. Il va faire quelque chose. Et j'ai vécu 4 ans avec la France va faire quelque chose. Tous les soirs je me disais... Demain, la France va faire quelque chose. Et puis en fait, il se passait rien. Mais j'étais très naïve. Quand on comprend un petit peu mieux le jeu des grandes puissances, on se dit que bon, bah, c'est bien d'avoir 15 ans, quoi. Et donc, le fait de mettre tout ça à distance, ça a été un grand sentiment de soulagement.
Dans votre livre « Au pays du machisme ordinaire », Ada Hatem, vous écrivez que vous avez emporté le souvenir du cèdre et la douceur du miel. On aura envie d'ajouter l'odeur du figuier.
Ouais, j'avais oublié l'odeur du figuier. Ben c'est sûr que le miel fait vraiment partie aussi de la montagne libanaise, tout comme le cèdre, qui est un arbre... c'est un très bel arbre, très majestueux, mais rien ne pousse sous les cèdres. Ça, je m'en suis rendu compte après.
Est-ce que aujourd'hui vous vous dites porteuse d'une double culture, orientale et européenne?
Je me suis toujours sentie, non pas française, mais francophone. J'ai mis beaucoup de temps à considérer que j'étais une Française comme les autres. Je ne sais pas si je suis encore une Française comme les autres. J'ai longtemps me suis pas sentie légitime à voter, par exemple. C'était pas tout à fait chez moi. Et en même temps, le Liban, c'est plus tout à fait chez moi. Donc, j'ai ce que connaissent tous les migrants, le cul entre deux chaises. Mais ma vraie culture, ma culture fondamentale, elle est orientale. Et mes enfants le perçoivent très bien parce que ils sont capables de dire, par exemple, ce qui est différent dans cette maison, ben c'est que les gens, il y a tout le temps des gens, et que les gens sont toujours bienvenus, et qu'ils savent qu'ils peuvent débouler avec n'importe qui à n'importe quelle heure, mais que pour leurs copains, c'est pas tout à fait aussi simple. Ils l'ont compris. Ça me fait plaisir.
Merci, Ada Hatem. On verra demain comment vous êtes devenue médecin, comment vous êtes devenue gynécologue, comment vous avez développé votre passion pour votre métier. À demain.
À demain, Caroline.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Virginie Lorda, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.